C'est la rentrée, c'est tout nouveau. C'est tellement nouveau qu'il y a une demi-heure, je ne sais pas que je faisais le message. Non, il y a eu un petit bug de programme. C'est la rentrée pour tout le monde. C'est aussi la rentrée pour l'Église. Et je crois que nous, chacun, on se rappelle ce qu'était notre rentrée, notre première rentrée. Peut-être première rentrée à l'école primaire, peut-être première rentrée au collège. Moi, je me souviens d'un jour où mes parents m'ont posé à 40 km de chez moi et m'ont dit « il y a dans 3 semaines ». J'avais 11 ans, c'était un petit peu raide. Voilà, j'ai survécu. Dans l'Église, il y a aussi un temps pour tout. Il y a aussi un temps pour apprendre, il y a aussi un temps pour réapprendre, pour réécouter. Dans le cadre de l'Église, on a différentes activités, l'école du dimanche, l'enseignement, et puis, j'en profite pour en faire de la pub, on a aussi un moment qui s'appelle parcours baptême. Alors, justement, je vois des qui me regardent avec des yeux bizarres. Parcours baptême, s'appelle parcours baptême, moi je l'intitule baptême pour les nuls. Vous savez la série des trucs pour les nuls. Pourquoi ? Parce que c'est un temps où on peut ouvertement discuter de ce qu'est le baptême. C'est pas une préparation qui va droit au baptême, c'est-à-dire il faut l'avoir fait pour. Non, c'est conseillé, mais c'est pas du tout une chose qui est comme ça. C'est-à-dire ça débouche pas systématiquement sur le baptême. C'est apprendre qu'est-ce que c'est le baptême pour n'importe qui n'aurait même jamais entendu parler de Dieu. Donc voilà. Donc on commence à zéro. Et dans ce parcours baptême, il y a un moment, il y a une question, et si Jésus n'était pas venu sur la terre? Et si Jésus, et ça, je vous la pose, et si Jésus n'était pas venu? Ben, je pense qu'on ne serait pas là, hein, simplement. Alors, on va lire un passage, un chapitre entier, qui est connu, chapitre de Jean, 14e chapitre de Jean, qui nous dit, qui a pour titre différentes choses. Il a soit pour titre dans la Bible « Exhortation », il a soit pour titre « Le chemin, la vie », « Le chemin, la vérité, la vie ». Il a différents titres comme ça. Ce matin, je vais vous proposer un autre titre. Mais on va d'abord le lire. « Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon je ne vous l'aurais pas dit, car je vais vous préparer une place. » Vous voyez, c'est un chapitre hyper connu de la Bible. « Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et où je vais, vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment saurions-nous le chemin ?» Jésus lui dit, « Moi je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi accomplit ses œuvres. » Verset 11, « Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais vers le Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Voilà la première partie de ce texte, mais on va lire aussi la suite, parce que c'est important aussi. « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez parce que moi je vis, et que vous aussi, vous vivrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que moi, je suis en mon Père, vous en moi, et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Jude, non pas Jude l'Iscariote, lui dit « Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure en lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai parlé de cela pendant que je demeure auprès de vous. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, c'est lui qui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que moi je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Moi, je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous avez entendu que je vous ai dit « je m'en vais et je reviendrai vers vous ». Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arrivent, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. Mais c'est afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a commandé. Levez-vous et partons d'ici. » Voilà un texte vaste, où on se perd un petit peu. L'incarnation même de Dieu en Jésus-Christ, pendant 33 ans, doit nous interroger. Et si Jésus n'était pas venu, nous n'existerions simplement pas en tant que chrétiens. Mais bien sûr, avec raison, vous me direz, c'était le plan de Dieu. Ok, et vous avez raison. Alors, puisqu'il est bien venu, qu'est-ce que ça a changé pour nous? Qu'est-ce que la venue, la vie, le départ de Jésus-Christ à la croix nous apporte comme changement dans notre vie? On va trouver dans ce texte des points précis. Resituons un petit peu ce passage dans son contexte. Jésus vient d'annoncer aux disciples son départ. Ce qui les a remplis de tristesse, et on peut les comprendre, ils viennent de vivre avec lui continuellement, un petit peu en communauté, on pourrait dire. Ils sont, pour la plupart, consternés. Tout ce qui était clair pour eux, tout d'un coup devient obscur, comme un rideau qui tombe devant leurs yeux. Ils sont remplis d'inquiétude et d'angoisse. Le Christ a lui-même éprouvé cette même angoisse et cette inquiétude. Et il les console, il les exhorte, il les invite à faire confiance en lui, à lui faire confiance, en leur dévoilant une perspective autre, une perspective glorieuse de la vie avec lui, dans sa réponse à Pierre au verset 36. « Là où je vais, tu me suivras plus tard. » Lui qui était avec eux depuis des jours et des mois, continuellement, j'ai envie de dire jour et nuit, leur annonce que désormais ils vont se retrouver seuls, privés de sa présence. Combien de fois dans la vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Et là, on peut faire peut-être même pas un effort, parce que c'est peut-être même pas la peine de faire un effort, mais d'y réfléchir, combien de fois dans la vie de tous les jours, on a le sentiment de se retrouver seul, isolé, inquiet, consterné, angoissé, avec devant nous un avenir tellement obscur qu'il fait même de l'ombre à notre présent. Combien de fois notre foi est-elle mise à l'épreuve, ébranlée, déstabilisée, réduite même au point de douter ou d'être en tout cas affaiblie, autant physiquement que spirituellement et que moralement. Ce passage dans la Bible, donc, a plusieurs titres au début du passage. Exhortation de Jésus, promesse, le chemin, la vérité, la vie. Je vous propose ce matin de lui donner un autre titre. Promesse pour la vie de tous les jours. Et je veux sortir un certain nombre de promesses de ce passage, au nombre de 6, pour notre vie de tous les jours, notre vie de rentrée. La rentrée, on fait des... C'est comme le 1er janvier, on fait des vœux, des fois. Ma maman me disait, ce fameux jour-là, tâche de bien travailler. Elle me l'a dit toutes les fois à la rentrée. J'ai jamais dit ça à mes enfants. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tâche de bien travailler. Bon. Mais qu'est-ce qu'on va faire cette année? Qu'est-ce que Dieu nous promet en tout cas pour notre vie de tous les jours cette année? La première promesse qu'il y a dans ce texte, c'est au verset 2 et 3. Une place, un toit. Pour le disciple de Jésus en son temps et pour nous aujourd'hui, c'est une pensée emplie de bienveillance et de consolation. Il y a plusieurs maisons, plusieurs demeures, plusieurs sortes de demeures dans la maison de mon Père. Donc, il y en a une pour chacun de nous. Il y a une place, un toit, un lit, une maison, un endroit de repos dans la maison de Dieu, dans la maison de mon Père. Il n'y a pas plusieurs sortes de demeures d'après le mérite ou la foi. Il n'y a pas des châteaux puis des bicoques à côté. Non, c'est pas, il n'y a pas des maisons spéciales pour les anciens, avec plein de téléphones portables, des trucs super, et puis des maisons pour ceux qui ont un petit peu moins, et puis vraiment des petits cabanons. Non, non, c'est tout des maisons pour chacun. Pas d'après le mérite, pas d'après un honneur, ou pour un bonheur différent. Non, il y a là la miséricorde totale de Dieu, grâce à laquelle chacun aura sa place, la même place dans la maison de Dieu. Jésus promet ici, ni plus ni moins, pour chacun de nous, et prenons-le pour cette rentrée, une place dans l'éternité, pour celui qui croit en lui. Et il dit, je vais vous préparer une place. C'est lui qui prépare cette place, pour nous. Notre Sauveur, après avoir achevé ici-bas la volonté de son Père, retourne auprès de lui pour nous préparer notre place à nous. Notre place à nous, personnellement, qui que nous soyons. Il nous a rachetés, chacun, par son sacrifice à la croix. Il est la garantie de notre admission personnelle auprès de Dieu. Il devient un petit peu notre bail à loyer, payé à l'avance, pas de charge, rien. Nous ne parlons pas ici de provisoire, de location, de temporaire, mais d'éternel. Pour le peuple, nous ne parlons plus ici de temple planté dans le désert, mais du solide, du définitif. Alors, au moment de cette rentrée, j'ai envie de vous dire qui ce matin se sent sans toi, T-O-I-T, sans toi, sans demeure, perdu, ne sachant pas où aller, qui se sent errant, hasardeux dans sa propre vie, simplement mal à l'aise, en tâtant un lieu puis un autre, n'arrivant pas à se décider, restant affecté par cette difficulté à trouver justement l'endroit où s'arrêter. Il y a une place pour toi, Théoï, dans la maison du Père. Jésus l'a promis. Deuxième promesse, et quelle promesse? Verset 3, la compagnie de Jésus. Ce Jésus après lequel, depuis 2000 ans, tout le monde semble courir sans jamais le rattraper, nous dit au verset 3, « Je reviens ». Et là où je suis, je veux aussi que vous soyez. Je reviens. Je reviens. Ce mot englobe toute l'œuvre merveilleuse et puissante de notre Sauveur, commençant avec sa résurrection et s'annonçant avec son retour au dernier jour. Les disciples, dans ce texte, plongés dans leur présent soucieux, ne comprennent pas encore la portée de cette promesse, ni le réconfort qu'ils pourraient encore y puiser. Pour nous, c'est tout à fait différent. Nous n'avons pas côtoyé Jésus comme eux. Nous n'avons pas marché sur le même chemin. Nous n'avons pas mangé ensemble. Nous n'avons pas dormi les uns près des autres. Nous n'avons pas eu cette proximité physique qu'ils ont eue avec le Christ. Mais à nous, il nous promet d'être avec nous tous les jours dans cette maison, en quelque sorte d'être notre voisin. Et vous avez déjà pensé avoir Jésus pour voisin ? Taillez-la et ensemble. Discuter dans la boîte aux lettres. Faire la fête des voisins avec Jésus. C'est fou, hein ? Avoir Jésus pour voisin. Vivre avec Jésus-Christ et Jésus-Christ avec nous. Jésus avec nous. Curieux, c'est exactement le nom que Marie a donné à son fils, Emmanuel. Jésus avec nous. Dieu avec nous. Le Christ explique ainsi que pour nous qui marchons, qui sommes en route vers cette demeure divine, il est lui-même le chemin, le seul chemin, le seul chemin. La question n'est donc plus de savoir où aller, puisque maintenant nous le savons, mais par quel chemin ? Quel chemin prendre ? La compagnie de Jésus ne nous est donc pas seulement promise, mais assurée tout au long de notre cheminement, puisqu'il est lui-même ce chemin du début à la fin. La raison humaine cherche souvent au loin ce que la parole de Dieu lui présente tout près. Thomas, saint Thomas, ne croit que ce qu'il voit. Et qui, honnêtement, n'est pas un petit peu Thomas ? Qui, quand son patron lui promet quelque chose, ne dit pas « J'attends que ça vienne pour voir si c'est vrai. Hein. » Thomas prétend ignorer le chemin, alors qu'il l'a sous les yeux, au propre et au figuré. Et le Christ doit lui répondre « Thomas, je suis le chemin. Je suis le chemin. » Et c'est ce qu'il nous dit à chacun de nous. « Et je suis le chemin. Je suis le chemin. » Pas moi, hein, le Christ. « Je suis le chemin. » Qui ce matin cherche un chemin ? Cherche le chemin pour aller dans cette maison. Le Christ promet pour nous d'être ce chemin, ce compagnon de route sur ce chemin. Ce compagnon qui aide à marcher, ce compagnon qui conduit au but sur le chemin de la vérité et de la vie. Troisième promesse, verset 14. Le Christ nous promet ici, et ça c'est un fil conducteur long de sa parole, nous promet ici de nous donner les moyens pour le suivre, les moyens d'agir, j'ai envie de dire. Et verset 14, il nous le dit par la prière. C'est le réseau qui nous relie à Dieu. Le réseau, ça vous dit quelque chose, réseau ? J'ai du réseau, j'ai pas de réseau. J'avais quelqu'un chez moi ce week-end, je ne vous dirai pas qui c'est, qui avait son téléphone portable, tout le temps, et tout d'un coup, il n'avait plus son téléphone portable, cette personne. Elle a dit, j'ai plus de réseau. Plus de réseau, c'était foutu, plus de réseau. Le réseau qui nous relie à Dieu, le réseau qui... celui-là, il n'est jamais coupé. Il n'y a jamais plus de réseau avec Dieu. Le réseau qui nous relie à Dieu, nous prions au nom du Christ. Seul intercesseur, voilà le réseau qui nous lie à Dieu. Et ce réseau, on ne peut pas le couper. C'est une liaison permanente, une sorte de ligne téléphonique qui ne sonne jamais occupée. Jamais. C'est en quelque sorte le web éternel pour nous. L'accès gratuit à Dieu. Le Christ, l'accès gratuit à Dieu. Les disciples, eux, et nous sur terre, nous prions au nom de Jésus, dans une sorte de rapport intime et plus vivant que jamais avec le Christ, crucifié sur une croix qui ressemblait peut-être à celle-là, mais avec le Christ ressuscité. C'est pas avec quelqu'un qui est mort qu'on va entrer en relation dans cette prière, c'est avec quelqu'un qui est vivant. Le Christ ressuscité. Ainsi nous prions, nous intercédons, nous élevons vers Dieu nos louanges, comme on l'a fait tout à l'heure, nos requêtes, nos cris, notre désespoir. Mais attention, on nous parle ici de prier en son nom, au nom de Jésus. C'est lui qui est ce lien, ce réseau. Pas question de vénérer ici quelque autre personnage, quelque autre saint, si saint soit-il d'ailleurs, non. Priez au nom du Christ, priez au nom du Christ. Une prière dans une relation de vie avec le Christ vivant, dans la connaissance que nous avons reçue de lui, dans la connaissance que nous avons reçue de lui, crucifié pour nous, mais ressuscité pour nous et glorifié. C'est une prière selon sa volonté, c'est lui qui le propose, par son esprit qui nous donne la puissance d'accomplir cet acte de foi, de demander en son nom. Prier ainsi, c'est se sentir uni, un, uni ça veut dire un, une unité, un seul, uni avec le Sauveur. C'est aussi avoir bien plus que la promesse, et c'est ce qu'il nous dit dans son texte, avoir l'assurance d'être exaucé, d'avoir la réponse à notre demande, et de l'avoir déjà reçue pleinement. Alors qui serait ce matin, au moment de cette rentrée, sans ressources dans sa vie, sans réseau avec Dieu. Verset 7 du chapitre 15. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi, c'est le Christ qui parle, si vous demeurez en réseau avec moi, si vous avez du réseau avec moi, donc demeurez dans ce réseau. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez. Il suffit d'être en réseau avec Dieu, par le Christ, pour demander ce que nous voulons et il nous l'accordera. Et ce que nous voulons va rentrer dans le sens de ce que nous voulons selon Dieu. Pas ce que nous voulons pour nous. Je veux un grand château avec une grande voiture longue comme ça, une énorme piscine et plus rien travailler. Non, ce n'est pas du tout ça. Mais dans cette relation, ce réseau avec Dieu, cette vie qu'il propose, ses promesses, rentrez là, Dieu donnera selon notre demande, puisque c'est ce qu'il nous promet. Quatrième promesse, et non des moindres, le don de son esprit. Au verset 16 et suivant, cette promesse, nous la connaissons bien. Et je ne vais pas m'étendre ce matin dessus, mais juste rappeler quelques points. On l'a vu, pour ne pas les laisser seuls sans lui, les disciples, Jésus va envoyer son esprit. Et Jésus, pour ne pas nous laisser seuls, nous a donné cet esprit, puisque nous ne l'avons pas côtoyé en chair et en os. Qu'on le nomme Esprit, Saint-Esprit, Consolateur, Avocat, Défenseur, peu importe, il nous est promis au-dedans de nous. Il nous est donné. Il n'est pas loué non plus. Il n'est pas à vendre. Il nous est donné. Nous ne restons pas et jamais orphelins. Dieu, le Père, par son Esprit est en nous. C'est la promesse d'une aide éternelle pour une vie éternelle dans cette maison éternelle qu'il nous a préparée. Jésus a été peu de temps, en somme, avec ses disciples. Mais l'esprit qu'il laisse à ses disciples et qu'il nous a laissé demeure toujours. Alors, qui ce matin se sent, pendant cette rentrée, seul avec son propre esprit, tout seul, un petit peu perdu dans ses questions, sans réponse, avec à l'intérieur de lui un grand silence, sans aucun écho qui vient en face de ses questionnements. Vous avez connu ça peut-être. C'est terrible de se poser des questions et d'avoir à la place un grand vide, un silence. L'esprit que Dieu promet est présent à chaque moment de la vie. Il va accompagner dans les moments faciles, dans les moments difficiles. Il va conseiller dans les difficultés de la vie. Il va consoler dans les temps de souffrance. Cet esprit est là présent à tous les instants de notre vie, que nous en ayons conscience ou non. Une cinquième et avant-dernière promesse, il y en a d'autres, hein, on peut en trouver d'autres, la paix. La paix. Est-ce que vous imaginez cette promesse de paix dans le monde dans lequel nous vivons? Une promesse de paix. Nous, on aspire à une paix, enfin, nous, on vit en paix ici. Mais combien de personnes aspirent à une paix qui soit une paix physique par rapport à la guerre? Simplement. Et la paix dont Christ parle ici, ça n'est pas cette paix-là en plus. Une autre paix, une paix autre que le monde. Je ne vous le donne pas comme le monde la donnerait. Est-ce que le monde donne la paix actuellement? Pressentant toutes les difficultés du disciple, Jésus promet ici une grâce particulière, un bien sans lequel le bonheur n'est pas accessible. Les Israélites se saluent par « Shalom, la paix soit avec vous ». Beaucoup d'autres peuples se saluent aussi par ce même mot ou une autre locution qui y ressemble. La paix que Dieu donne est autre qu'une simple salutation. Quand Dieu dit « Je vous donne ma paix », ce n'est pas juste « Salut ». Ce n'est pas du tout ça. Ce que Dieu propose, c'est la sérénité. La sérénité intérieure de l'âme. J'ai dit que c'était au verset 27. Verset 27. Très bien, Clément, chapeau, merci. C'est la sérénité intérieure de l'âme remplie de confiance en son Sauveur. Il nous laisse la paix. Il nous laisse sa paix. Sa paix. Un legs précieux en son absence. Utile dans le trouble, dans la tristesse. Notamment dans cette tristesse que procurait aux disciples le départ de leur ami et de leur maître. Bien plus, il leur donne sa paix à lui, sa propre paix, la paix qu'il habitait et qu'il puisait au plus profond de cette relation avec son Père, de cette connexion avec son Père. Ce n'est pas une paix promise, je l'ai dit, comme la coutume du monde, réduite à de vains souhaits, à des promesses malheureusement souvent intéressées et non tenues. Jésus donne sa paix par l'amour le plus pur. Sa paix à lui. Et pourtant, il a été troublé aussi. Mais il a toujours retrouvé auprès de Dieu cette paix. Et pourtant, jusqu'au bout, il a dit à son Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais il a terminé avec la paix que Dieu lui donnait, que son Père lui donnait. Alors ce matin, qui serait troublé, inquiet, ou rechercherait une paix intérieure profonde, mais une vraie paix, pas une paix superficielle, pas une paix qui fasse juste beau dehors, en apparence, non, une paix totale, et j'ai envie de dire une paix durable, parce que la paix de Dieu est durable, une paix qui fait du bien au-dedans et qui va se voir au-dehors. Ces paroles devraient inspirer à tout homme sensé, et j'espère qu'on est un peu sensé, toute femme sensée aussi, il y en a aussi. Non, c'était un gag pour vous détendre un peu. Quand on dit, la Bible parle de tout homme, c'est bien entendu tout homme et toute femme, on est bien d'accord. À tout homme sensé, toute femme sensée, une confiance totale et entière en Christ Dieu venu sur la terre. Et puis, une promesse qui me paraît terriblement importante et qui découle des cinq autres, c'est la joie. C'est la joie. J'ai entendu une fois un pasteur prêcher sur la joie, à peu près avec cette vigueur-là. Nous devons être dans la joie. La joie. Mais cette joie, elle découle des cinq autres promesses qu'on a vues. Impossible d'accepter ces cinq promesses de Dieu et de ne pas être rempli de la joie de Dieu. Les disciples, Jésus les laisse finalement en joie pour aller auprès du Père. Et Jésus nous laisse en joie en sachant, nous, qu'il est auprès du Père et qu'il veille sur nous. La relation qu'il vient de définir et de décrire pour nous, en nous, Il ne nous a pas donné simplement la recette, mais aussi tous les ingrédients. Il nous les a donnés, apportés. Ils sont là. Ces ingrédients et cette recette ne peuvent que nous amener à une vie débordante de joie, à une vie de bonne humeur, à une vie positive. Et cela, quelles que soient nos galères, quels que soient nos soucis, Dieu promet, Dieu a promis, il faut les regarder en face. Une vie débordante de joie, de bonne humeur, qui va monter alors vers notre Dieu, et nous allons pouvoir lui faire monter notre louange comme un parfum, un bouquet de bonne odeur. Le Christ déborde dans ce texte de tendresse envers ses disciples, envers nous. Et je vous invite à relire chez vous ce chapitre 14 et à chercher dedans tous les mots d'amour qu'il y a. C'est bourré de mots d'amour. Relisez ce chapitre 14 en pensant uniquement aux mots d'amour qu'il y a dedans. Il semble encore nous dire « la joie va vous remplir, la joie doit vous remplir, tant la vie que je vous propose est merveilleuse. Je pars, dit-il aux disciples, je suis parti, nous dit-il à nous, oui, mais c'est pour accomplir le vœu de mon Père, vœu d'amour, plan d'amour, pour votre vie, à vous tous, mes enfants, les enfants que Dieu m'a confiés, les hommes et les femmes que Dieu m'a confiés. C'est une joie profonde pour moi, d'accomplir ce retour dans la maison de mon Père, et pour vous, il en est de même. Réjouissez-vous donc, réjouissons-nous donc, et soyons sans cesse dans cette joie, parce que c'est une joie qui procure la vie, simplement. Comment pourrait-il alors y avoir, au-dedans de vous encore, de l'indifférence, de l'apathie ou de la tristesse ? Comment pourrait-il avoir cela avec ses promesses encore? Je vous invite à réfléchir à cela ce matin. Et si le Christ n'était pas venu, toutes ses promesses seraient vaines. Et ces promesses, elles ne sont pas vaines, elles sont dans sa parole au chapitre 14 de l'évangile de Jean. Alors pour conclure, je vous laisse encore un verset qui va dans le même sens, bien sûr. Verset 11 du chapitre 15, « Je vous ai parlé ainsi. » Ça, c'est le Christ qui dit, qui nous parle à nous, puisque nous lisons. « Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, ce matin, nous qui avons peut-être besoin de le trouver, parce qu'on ne l'a pas encore trouvé, de le retrouver, parce que, non pas parce qu'il est parti, mais parce que nous nous sommes égarés, de le rechercher ou d'approfondir cette relation avec lui. La joie du Christ partit auprès du Père pour nous préparer cette place dans la maison céleste et qui nous promet jour après jour pour nous. Amen. Je vous invite à un petit moment de silence. Si quelqu'un veut prier ou exprimer sa joie, qu'il le fasse tout à fait librement. Seigneur, merci pour ta parole qui, jour après jour, nous accompagne, nous enseigne, parle à notre cœur. Je me rappelle de ce petit chant qui dit « Seigneur, tu es notre joie, notre vie, notre espérance. Nous ne sommes rien sans toi. » Seigneur, je te prie que dans ce temps de rentrée, tu viennes nous rentrer dedans avec ton esprit, pour que nous puissions retrouver cette joie, pour que nous puissions retrouver ces promesses pour nous, les faire nôtres, et les faire nôtres surtout pour vivre avec dans les jours, les semaines, les mois que tu nous donnes devant nous. On veut te remercier pour les enfants qui sont enseignés ce matin. On veut te remercier pour ta parole qui, nous adultes, nous enseigne aussi ce matin. Et on veut se laisser pénétrer par elle, Seigneur. Merci pour ce réseau toujours ouvert. Merci pour ces promesses. Seigneur, garde-nous dans ta joie, jour après jour, malgré nos difficultés de vie, malgré nos chemins à chacun. Que ton nom soit béni, Père. Amen.
Bonjour. Avant de partager avec vous les annonces de la semaine, Juste deux, trois petites informations. Tout d'abord, Floriane est bien arrivée. Donc, Floriane est bien arrivée à Saint-Hippolyte-du-Fort. Donc, elle prend un temps de formation, un temps de 6 mois. Donc, elle fait une école de disciples dans le cadre de Jeunesse en Mission. Alors, c'est bien aussi de penser à elle, de la soutenir dans nos prières. Et de penser aussi à ce temps de formation particulier pour elle. Deuxième petite information, vous avez vu que ce n'étaient pas les mêmes personnes qui ont préparé le thé café ce matin. Merci à Clément et Pierrick d'avoir mis du temps pour cela. En effet, Pierre-Alain et Valérie souhaitent être relevés de cette tâche. Alors si quelqu'un se sent concerné, si quelqu'un a envie de prendre du temps pour cela, qu'il nous le fasse savoir. C'est important quand même ces moments qui sont utiles pour l'Église. Moments de convivialité, moments dans lesquels on peut mieux apprendre à se connaître, moments qui préparent aussi à ce temps de culte, donc qui se passe une fois tous les 15 jours. Donc réfléchissez, c'est important que ce moment ne s'arrête pas, mais qu'il puisse continuer. Une autre information, puisque c'est quelque chose qui se déroule dans la journée, il y a aujourd'hui la kermesse de l'Église protestante unie. Donc si vous voulez, vous pouvez, dès après le culte, aller donc à l'église réformée de Ferney-Voltaire. Il y a moyen de se restaurer sur place, et puis ensuite ils font une vente, une brocante. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui y participent chaque année. Donc voilà, c'était utile de passer l'information. Maintenant, le programme de la semaine. Demain soir, on a le conseil qui se rencontre à 19h30. Mardi, ce sont les cellules. Alors, pour la cellule de Gex, ça va être chez nous. Pour la cellule de Prefsin, j'imagine, c'est toujours chez Emmanuel et Rebecca. Et pour la cellule du côté sud du pays de Gex, chez Fred et Nancy. Ah ouais, c'est le sud là-bas. Ensuite, jeudi, on a la chorale qui se retrouve. C'est encore temps de vous rajouter, si vous voulez participer à la chorale. On vient juste de recommencer. Donc, si quelqu'un veut se joindre à nous, ben, vous êtes le bienvenu. Il y a plusieurs objectifs qui sont devant nous. Et c'est aussi des moments très utiles pour l'Église et aussi pour chacun de ceux qui y participent. Oui ? Ah ouais, c'est ce jeudi, ouais, tout à fait. Donc ce jeudi, ça va être le 10. Le week-end prochain, c'est le week-end du Col des Mosses. Donc il n'y aura pas de culte ici dimanche. Il y a une fiche d'inscription au fond de la salle, sur le tableau au fond. Si vous voulez participer, c'est important de vous inscrire, comme ça on sait combien il y aura de personnes, pour prévoir les bonnes quantités aussi. Le week-end au Col des Mosses, vous pouvez déjà... Alors, ceux qui ne savent pas où c'est, vous pouvez me demander. Je vous communiquerai un plan où on peut se suivre aussi en voiture. Si vous êtes tout seul à venir, vous pouvez aussi nous contacter pour se grouper dans les voitures. Ce serait dommage de monter des voitures à moitié remplies. Vous pouvez monter déjà pour le pique-nique de midi. Donc, le samedi à midi, il n'y a pas de repas en commun qui est prévu, mais chacun peut venir avec son pique-nique. Voilà, et puis il y aura moyen de faire griller des choses sur place, donc on préparera un feu. Donc si vous voulez, vous pouvez déjà venir à partir de 11h30 midi sur place. Ensuite, prenez aussi vos draps ou sacs de couchage pour dormir, pour la nuit. Il y a des couvertures sur place, mais il n'y a pas les draps dans lesquels on dort ni les sacs de couchage. Donc ça, c'est important de les prendre aussi. Comme thème de ce week-end, on vous propose un partage ou des réflexions autour de versets bibliques qui sont parfois pas évidents à comprendre, qui sont parfois compliqués. Par exemple, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, des choses qui ne sont pas forcément évidentes à comprendre lorsqu'on les lit dans la Bible. Ce qui n'est pas naturel, afin de nous enrichir et d'avoir ces moments qui nous enrichissent mutuellement. Une autre information un petit peu plus tard, mais qui commence déjà cette semaine. Alpha Couple. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Dans la série des cours Alpha, il y a donc un cours spécifique pour les couples. Et il y a, comme tous les automnes, un Alpha Couple, donc une série de soirées qui sont organisées dans le cadre de la pastorale et aussi avec les églises catholiques. Et puis, le 17, donc jeudi prochain, il y a une première soirée, une soirée découverte. Alors, si un couple désire participer à Alpha Couple, ça va commencer en octobre, mais il y a déjà une première rencontre pour voir ce que c'est, voir comment ça se déroule et tout. Donc, n'hésitez pas à me le dire, puis je vous communiquerai les informations pour vous inscrire. Il faut s'inscrire puisque c'est la soirée complète autour d'un repas. Un repas qui se prend couple par couple, donc il y a une table pour chaque couple. Et le but est donc de renforcer la vie de couple. Donc c'est vraiment un temps, on l'a vécu avec Anne-Marie, c'est vraiment un temps utile pour nous rapprocher au niveau du couple. Donc moi, si vous ne l'avez pas encore fait, moi je vous invite à le faire. Et donc jeudi, il y a une première rencontre pour savoir ce que c'est. Donc, oui, le 17, oui, donc c'est dans 15 jours, dans 10 jours, quoi. Une première soirée pour voir exactement ce que ça représente. Ensuite, le samedi, donc dans 2 semaines, ce sera la rentrée du groupe de jeunes. Et ce sera déjà dès la fin de la matinée. Mais enfin, je pense que les jeunes, vous allez recevoir directement les informations. Le mardi 29, donc le dernier mardi du mois, c'est un cinquième mardi. Et on aura une assemblée de membres. Alors c'est important aussi que vous le notiez dans vos agendas, une assemblée de membres dans laquelle on va partager des informations et voilà, c'est un moment utile aussi pour le fonctionnement de notre Église. Ensuite, 2 dates à retenir, 2 samedis, le 10 et le 17 octobre. Le samedi 10 octobre, il y aura donc une matinée de travaux. Nettoyage, lasure, préparation, on va aussi démonter la laine de verre qui est juste en dessus du plafond. Pas mal de boulot, donc on a besoin aussi de pas mal de monde. Là, on prévoit juste le matin, samedi matin, le 10 octobre. Et puis le 17 octobre, on prévoit la journée complète. Là, ce sera la suite des lasures, parce que vous savez, la lasure, c'est bien de mettre plusieurs couches. Entre-temps, il faut que ça sèche. On va aussi reposer l'isolation du plafond et on va aussi changer les gouttières. Les gouttières sont d'origine de la construction. Plusieurs sont déjà percées, voilà, c'est le moment de les changer. Donc retenez bien le 10 et le 17 octobre. Maintenant, une annonce du groupe de jeunes. Ils sont sympas les responsables du groupe de jeunes, ils ont des annonces, mais il n'y en a aucun qui est là. Alors, si vous ne connaissez pas bien le groupe de jeunes, vous manquez quelque chose. Ce petit groupe est composé d'une dizaine de jeunes fort sympathiques, dynamiques et motivés à fond. Ils ont à cœur de se retrouver chaque semaine pour lier des amitiés entre jeunes chrétiens, apprendre à connaître Dieu plus en profondeur, s'édifier ensemble et petit à petit trouver leur place dans l'Église. Cette année, le groupe de jeunes souhaite faire évoluer un petit peu leurs activités. Et ils désirent avoir plus de contact avec nous, avec l'Église, avec les personnes peut-être un petit peu plus âgées. Pour cela, ils recherchent des personnes qui pourraient apporter leur contribution, petite ou grande contribution, à ce sympathique groupe. Vous pouvez les aider pour une soirée ponctuelle ou bien de manière plus régulière et de différentes façons, de différentes manières. Alors n'hésitez pas à venir leur en parler. Si cela vous tente de découvrir ces jeunes, tous un petit peu plus foufous les uns que les autres, et ils vous expliqueront plus précisément ce qu'ils ont derrière la tête. Alors, tous les responsables ne sont pas là ce dimanche, vous pouvez leur téléphoner ou leur envoyer un petit mail. Donc, ils ont une adresse email spécifique pour le groupe de jeunes. Voilà. Alors, cette année, les responsables du groupe de jeunes sont Rémi, Claire, Mathieu et Anne-Laure. Et on tient aussi à remercier tout particulièrement Aurélie, qui a aussi participé au bon fonctionnement du groupe de jeunes pendant plusieurs années. C'était vraiment chouette. Voilà pour le groupe de jeunes. Donc, si vous voulez vous participer au fonctionnement du groupe de jeunes, peut-être apporter une méditation, mettre en route des jeux, des choses, c'est très vaste. N'hésitez pas à contacter un des responsables du groupe de jeunes. On veut penser aussi à Charlie qui a perdu sa sœur cette semaine. C'est vrai, c'est une étape de vie, quelque chose de pas forcément toujours facile à vivre. Le décès d'un proche, ben voilà, Charlie, on pense à toi. On prie pour toi aussi que Dieu t'accompagne aussi. C'est vrai que ce sont pas forcément des moments faciles. On veut penser aussi à Mike qui a un petit souci de santé, une phlébite à une jambe. C'est aussi pas forcément évident de se retrouver à la maison, se retrouver avec un petit problème de santé. Ben on veut aussi penser à toi, Mike, prier pour toi, t'accompagner, te soutenir aussi. Cette semaine, on vous invite à prier pour les chrétiens du Maroc. Je ne sais pas, Clément, si tu peux nous mettre la carte. Alors, si les communautés chrétiennes étrangères au Maroc bénéficient au Maroc de la liberté de culte, les chrétiens marocains autochtones, donc ceux qui sont issus du pays, n'ont pas les mêmes droits. Les musulmans marocains qui se convertissent au christianisme sont traités comme des criminels par la police et sont rejetés par leurs amis et leurs familles. Pourtant, la conversion volontaire n'est pas un crime dans la loi marocaine, donc il y a un décalage fort entre la loi et ce qui est pratiqué. L'extrémisme islamique est la principale source de persécution au Maroc. On l'a déjà vu plusieurs fois dans plusieurs pays. Il y a encore plus que le gouvernement est dirigé maintenant par un parti islamique. Dans ce pays, à majorité musulmane, la dynamique de persécution est comparable à celle de ses voisins du Maghreb, même si la législation est un peu moins restrictive. Le gouvernement local, les voisins et parfois les familles sont responsables de la plupart des hostilités contre les chrétiens. Mais il faut noter que le parti islamiste qui a gagné les dernières élections est la principale source d'inquiétude pour les chrétiens. Les organisations islamiques, souvent créées par l'Arabie saoudite, ont de plus en plus d'influence dans ce pays. Alors, pour une population de 31 millions d'habitants, il y a seulement 22 000 chrétiens et qui sont principalement catholiques au Maroc. Donc c'est vrai, c'est important de prier pour le Maroc. Donc le Maroc, je pense, chacun sait voilà, qu'il est situé ici. Alors vous voyez qu'il n'y a pas de numéro dans ce pays. Il n'y a pas de numéro parce que vous avez ici la carte de l'index de persécution 2015. Donc en 2015, le Maroc est sorti de l'index, c'est-à-dire que le Maroc n'est plus dans les 50 pays dans lesquels il y a le plus de persécution. Mais en fait, le Maroc est sorti de ces 50 premiers pays, non pas parce qu'il y a moins de persécution qu'avant, mais parce qu'il y a de plus en plus de pays dans lesquels il y a de la persécution. Et en fait, c'est intéressant de savoir aussi que le 50e pays, donc le dernier pays pris en compte dans l'index de persécution, avait en 2014 45 points. Donc chaque pays est évalué au niveau de la persécution à un certain nombre de points. Et plus le nombre de points est important, plus le niveau de persécution est élevé. Et donc le dernier pays en 2014 avait 45 points et en 2015 le dernier pays de l'index de persécution a 49 points. C'est pas rien, plus de 10% de points en plus. Et donc la persécution mondiale augmente, on le sait, on le voit. Et le Maroc, eh bien, il est sorti de l'index de persécution, mais pourtant il y a aussi plus de persécution qu'avant. Une information qui est un petit peu liée à cela, c'est paru dans le journal, dans le Figaro. Si certains veulent avoir l'information, je peux leur passer le journal. Le 8 septembre, donc c'est la semaine prochaine, le 8 septembre, le ministre des Affaires étrangères organise une conférence internationale pour répondre à l'appel des minorités syriennes et irakiennes. Et les chrétiens font partie des minorités. Donc c'est important aussi de prier pour ce temps de rencontre. Il y aura un grand nombre de pays, je crois une cinquantaine, une soixantaine de pays qui vont participer. C'est important aussi que nous les chrétiens, nous prions aussi pour que les minorités chrétiennes soient prises en compte dans les minorités lors de ces situations de difficulté. Voilà, je vous invite à vous lever. Et pour clore notre culte, je vous lis encore deux versets dans Éphésiens 3. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.